On va laisser la parole à Baptiste Pointillard qui va nous parler du lien entre skate et culture punk.
Bonjour à tous. D'abord, merci de m'inviter aujourd'hui. Merci aux organisateurs. C'est vrai que moi non plus, j'aurais pas pensé forcément venir ici parler devant vous, mais le sujet s'y prêtait pas mal aujourd'hui. Alors moi aussi, je suis doctorant à l'Université de Bordeaux. Je suis aussi enseignant en collège d'histoire-géographie. Donc j'ai une approche qui est assez proche de l'histoire, forcément. Ici, je vous présente un sujet plutôt sur les liens entre le skate et le punk. Il me semble que les représentations qui associent le skate et le punk, ça semble souvent aller de soi. Finalement, dans les discours des médias, voire dans l'opinion publique. Et pourtant, le caractère aujourd'hui qui est vraiment mainstream du skate, ça fait plus de débat, tant les effectifs sont importants, et tant son industrie est puissante. Par contre, de son côté, la culture punk semble toujours fidèle à une forme d'idéal non conformiste, teintée un peu parfois de nihilisme. Alors, je me suis posé la question de savoir, finalement, est-ce que l'identité du skateboard est-elle vraiment liée à celle du punk? Et pourquoi est-ce que le punk est aujourd'hui une pratique grand public à l'inverse du punk? Que le skateboard est une pratique grand public à l'inverse du punk? Donc aujourd'hui, je souhaite vraiment présenter, surtout interroger les liens qui rattachent les deux mondes. Je vais ouvrir la question et la poser à des spécialistes de l'histoire du punk pour essayer de discerner ce qui relève des représentations médiatisées et au contraire, ce qui semble tendre plutôt vers une histoire partagée par des acteurs communs. La question de la proximité de ces deux mondes n'est pas vraiment travaillée dans la littérature française, qui correspond à un manque pour moi. Je prétends pas combler aujourd'hui ce manque, loin de là. Par contre, la littérature anglo-saxonne, notamment états-unienne, il y a quelques analyses qui sont pertinentes, même si beaucoup sont des acteurs non académiques qui sont penchés sur la question. Tout de même, il y a un travail universitaire qui a une lecture assez originale que je vais essayer de commenter et puis que j'essaierai de montrer comment on peut essayer de transférer un peu la situation française aussi. Aujourd'hui, je vais ouvrir des pistes de réflexion sur ces liens entre skateboard et punk qui sont étiquetés comme des cultures non conformistes malgré leur imbrication dans une industrie marchande capitaliste qui est puissante. Donc je souhaite vraiment questionner leur degré aussi de conformité à la culture dominante, s'il en est, pour faire ressortir des pistes qui pourraient expliquer les mutations culturelles traversées par ces deux mondes en lien avec le développement de leur propre secteur économique. Autrement dit, en quoi les représentations assimilant skate et punk tiennent-elles d'une histoire commune, entretenue commercialement, au point de provoquer des mutations distançant ces deux cultures? Donc pour ce faire, je vais me cantonner à l'objet que je connais le mieux, hein, c'est-à-dire le skateboard. Hein, je ne vais pas prétendre vous informer tellement sur ce qu'est le punk. Donc je vais présenter d'abord son histoire et montrer les mutations de ces liens, surtout avec la culture punk. Je vais vous présenter donc le skateboard, mais dans ses liens avec le punk, et dans les représentations, en fait, aussi pour montrer les transferts culturels, les ruptures aussi qui amènent à l'histoire aujourd'hui très contemporaine de notre situation. Pour ça, donc, j'ai envie de présenter quand même le skateboard comme une pratique qui est par essence, finalement, non conformiste, et donc assez analogue au punk. Puis ensuite, je vais mettre en lumière deux moments, deux périodes, si on veut, de forte proximité, voire d'une histoire qui pourrait être partagée entre ces deux mondes, et qui illustre aussi des mutations qui sont internes à ces deux mondes, et qui, selon moi, explique en partie les représentations répandues de nos jours. Donc le skate, c'est une pratique qui est non conformiste par essence, dans le sens où elle se développe hors du cadre sportif traditionnel. On peut facilement faire débuter l'histoire du vrai skate avant les années 50, plutôt du coup au début des années 60, et qui se développe davantage avec les années 70. Et ça va se développer hors du champ des sports traditionnels, libre d'horaire, libre de lieu, libre de règles. Finalement, il n'y a ni arbitre ni maître dans ce sport, ce qui est assez proche du punk. Pour redéfinir, hein, les sports traditionnels, ce qu'on considère comme les sports traditionnels, ils vont se dérouler sur des terrains qui sont spécifiques, délimités par une durée, hein, éventuellement chronométrée ou bien une distance. Il y a une appréciation de l'arbitre qui est primordiale. Et donc ça va amener ça, des gestes qui sont normés, qui sont codifiés, comme des références. L'objectif, c'est d'avoir des résultats qui sont comptabilisés, soit par points, et donc qui vont amener une confrontation entre adversaires. Et l'esprit compétitif est bien essentiel dans le sport depuis l'Antiquité. Pour arriver à cet objectif, il faut s'entraîner. Il faut des entraînements qui soient avec des mentors, hein, des profs, finalement, qui vont reprendre le cadre d'apprentissage scolaire traditionnel, avec un enseignant qui va donner son cours pendant des horaires, tout ça aussi autour d'une institution légitime. Et pourtant, les premiers skaters, les premiers utilisateurs, plutôt on va dire même de skateboard, hein, avant même de parler de skater, ce sont des surfeurs. Des surfeurs qui ont une identité, qui ont une culture non conformiste aussi, qui ont une pratique en fait non conformiste aussi, parce qu'elles se développent hors de l'organisation institutionnelle. Ces surfeurs qui vont descendre les pentes californiennes sur des planches en bois qui sont fixées sur des axes en acier qui sont non inclinables avec des roues en argile particulièrement fragiles, ils vont développer une activité qui est ludique et qui est sportive, hors des normes institutionnelles des sports traditionnels. Ils vont pratiquer dans des terrains qui sont sauvages. Ça va être les routes goudronnées, ça va être des plans inclinés autour des écoles de Californie, ça va être les pipelines pour les travaux hydrauliques de la Californie, des énormes pipelines, des grandes canalisations dans lesquelles ils vont pratiquer aussi. Ils inventent en fait aussi cette pratique-là par leurs gestes, ils vont inventer les gestes. Il n'y a pas de mentor, ils la font hors du cadre. Et ils la font aussi sur leur temps libre sans qu'il y ait une durée déterminée. Donc l'absence de cadre institutionnel pour organiser l'apprentissage, ça montre aussi une pratique qui va se développer par le bas, contrairement à ce qui peut se faire actuellement ou ce qui se faisait déjà à l'époque par les sports traditionnels. D'ailleurs, les premières compétitions qui sont organisées sont vraiment organisées par le réseau, et encore aujourd'hui, hein, le terme de réseau est très important pour le skateboard, c'est-à-dire les petits magasins, souvent des surf shops, les fabricants aussi plutôt locaux, et c'est pas une fédération légitime auprès de l'État qui va organiser ces premières compétitions. Alors même s'il y a des évolutions qui sont nombreuses dans les formes de pratiquer le skateboard, et encore plus dans les institutions qui l'encadrent, finalement le skate, ça reste une activité qui est distincte des sports traditionnels par la recherche de sensations de liberté, que ce soit réalisé à seul ou à plusieurs, sur des terrains qui sont très variés, sans obligation d'affiliation, en fait sans contrainte. Le sentiment de liberté qui est vécu par les adeptes, ça reste l'élément central de la culture qui découle de cette pratique. Il y a une volonté d'être hors de la conformité, ce qu'on retrouve en fait chez les punks. Et cette volonté d'être hors de la conformité, elle va se retrouver aussi par un style vestimentaire notamment, qui va d'ailleurs emprunter beaucoup au punk. Et alors là, je parle sous couvert de vos connaissances, mais il me semble que le punk, avant même d'être une musique, c'est finalement un style aussi vestimentaire, identitaire. Et là, le skateboard aussi va adopter une sorte de style particulier. Alors ici, je n'ai pas tellement l'intention de vous présenter les différents styles du skate, hein, c'est pas autour des, je suis pas là pour parler des jeans, des lavés et autres, mais bien de l'importance pour les skateurs de s'identifier, c'est-à-dire d'utiliser un style, de montrer un style pour montrer son appartenance à un groupe social, celui des skateurs. Alors même s'il y a une évolution qui est constante, hein, dans le style des skateurs encore aujourd'hui, il y a toujours une forme de volonté de montrer sa non-conformité finalement. Que ce soit le baggy dans les années 90, très large, hein, qui vient même un peu du hip-hop, et qui vient même en fait finalement des prisonniers des prisons californiennes, ou même le jean slim qui va être importé en Europe par les skaters, qui est maintenant aussi très répandu, très serré, à l'inverse notamment du baggy. Finalement, tout ça, ce sont des volontés d'afficher un style, d'afficher une appartenance et de montrer une volonté d'être non conforme. Alors, on pourrait parler aussi du vocabulaire, hein, utilisé pour là aussi être reconnaissable en termes de groupe. Et un autre élément qui est essentiel aussi dans la pratique du skate, c'est l'adaptation, l'adaptabilité des skateurs. La pratique s'est développée d'abord sans terrain, sans vraiment espace spécifique. Et donc, ils ont dû bricoler des lieux. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, les cours de primaire, ça peut être les pipelines, ça peut être les premières rampes qui sont fabriquées à la main par des skateurs. On a des exemples notamment à Bordeaux. Donc, il y a cette notion de bricolage, et même les premières figures sont en fait des bricolages aussi. La capacité finalement de la débrouille, à savoir adapter le terrain, à savoir aussi le modifier par ses propres moyens, ça fait partie de l'identité du skate. C'est une sorte de DIY, hein, qui correspond également aux méthodes répandues au sein des scènes skate, qui vont s'autoproduire par idéal d'autosuffisance ou aussi par manque de moyens par moment. Il me semble que l'utilisation innovante d'un objet de loisir et le manque de cadre institutionnel, mais surtout la recherche d'une non-conformité, à part là, les skateboarders adoptent une culture sportive qui est, semble toute, analogue au mouvement punk. Alors, si la pratique du skate correspond, comme on vient de voir, à une activité non conforme au cadre des sports traditionnels, les représentations qui y sont attachées insistent quand même beaucoup sur une entité qui est underground. Il me semble que c'est important d'exposer les circonstances de cette affirmation présentée comme authentique par les médias et par l'industrie spécialisée pour montrer que ça correspond surtout à une période de l'histoire du skate durant laquelle le punk est un élément concomitant de cette culture sportive au point qu'on puisse considérer qu'il s'agit d'une forme de culture partagée, d'histoire partagée. Pour remettre dans le contexte, le skateboard et le punk se développent principalement au moment de l'essor de ce qu'on peut appeler les cultures jeunes, autour des années 60 puis 70. Pour remettre dans le contexte, on est bien sur une sorte d'allongement de la période de la jeunesse, avec un recul de la rentrée dans le monde du travail, un recul de l'institution du mariage aussi, et donc avec la naissance d'un groupe social qui est la jeunesse, qui va avoir un esprit rebelle, par volonté, par besoin finalement de s'identifier, de s'affirmer vis-à-vis de la génération précédente. C'est une forme d'agency en fait, hein, de pouvoir s'identifier en tant que groupe social. Et le skate et le punk se développe dans ce contexte-là aussi. Et je pense que c'est un élément qui est important, et notamment, et justement, ici je fais un parallèle avec Amy Shivers, qui est une sociologue états-unienne, pour qui l'esprit rebelle est une sorte de fondement de l'identité nationale états-unienne. Elle prend comme exemple les grands aventuriers, enfin les aventuriers du Grand Ouest américain, qui sont des marginaux en fait, hein, qui vont partir à la conquête de terres inconnues, qui correspond vraiment à une contre-culture du 19e siècle. Et ces histoires-là, qui sont des histoires parfois anecdotiques, mais bon, ça devient quand même un mythe fondateur de la culture dominante états-unienne, avec cet esprit d'indépendance, entrepreneurial, de self-made mind, et donc c'est complètement non conforme avec l'époque. Pour elle, ça pourrait expliquer l'essor et ensuite l'acceptation des contre-cultures aux États-Unis. Alors là, c'est une analyse qui est vraiment localisée états-unienne, mais finalement, je pense qu'on peut avoir une forme d'analogie qui peut être intéressante à faire en France avec le roman national français, notre roman national tourné, axé autour de la Révolution française et de l'acquisition des droits de l'homme, qui est à l'époque non conforme avec la culture dominante du XVIIIe siècle, mais qui aujourd'hui, quand même, est un fondement de la culture nationale. Et d'ailleurs, les grèves françaises, hein, la réputation de la France qui fait des grèves, ça vient pas de n'importe où. Ça vient aussi de cet esprit rebelle. Donc là, je fais un petit pas de côté, en fait. Mais bon, je pense que c'est intéressant quand même à poursuivre pour plus tard une réflexion d'abord sur la place de la rébellion au sein de la culture nationale et donc aussi de l'influence de cette place de la rébellion dans l'acceptation du skate et du punk en France. Je pense que c'est un élément qui pourrait être à creuser. Alors, je reviens un petit peu plus sur mon sujet précis. Ce contexte aussi des années 70 voit, après une période de popularité, le skateboard voit une vraie crise à la fin des années 70, et il y a un besoin de renouveau. Et quand on interroge les principaux responsables des médias spécialisés des années 80, on voit que les acteurs économiques vont orienter sciemment le skateboard vers l'underground, vers une culture underground, pour essayer de redynamiser le secteur. Et l'objectif, hein, c'est bien sûr de plaire à un public jeune qui est non conformiste. Là, on peut citer deux personnes, notamment Fausto Vitello, qui est le fondateur du magazine Thrasher, et George Powell, qui est le PDG de l'entreprise Powell Peralta. Les deux affirment ce besoin, à la fin des années 70, de redynamiser le secteur industriel du skateboard et de passer par le côté underground pour profiter de justement des mouvements punk, des mouvements rock, hein, pour être un peu plus large, mouvements alternatifs, pour essayer de recentrer son public vers ces jeunes-là. Et donc, de facto, on a en fait dans les années 80 des skateurs qui sont assez rares, qui sont donc marginalisés et qui adoptent petit à petit, progressivement, des styles qui sont assez underground et des styles qui sont assez proches du punk. Et la musique punk, d'ailleurs, fait partie intégrante de la communauté skate sans qu'il soit réellement possible de démêler l'un de l'autre à cette période-là. Et d'ailleurs, le magazine Thrasher, pas comme sous-titre, en fait, comme devise, comme slogan, Skate et Destroy. Et alors, je vous montre quelques extraits aussi dedans. Hein. Ce magazine qui a été présenté, hein, tout à l'heure, j'ai cru que vous alliez faire une partie de mon travail, qui débute du coup en 1981, montre vraiment un esprit très underground, un ton léger, un ton grivois, un ton provocateur. Et il y a toujours au moins deux pages sur le punk. Alors ici, c'est en novembre 81, est-ce qu'on voit très bien ? On aperçoit un petit peu sur les Big Boys. En juillet 83, sur le groupe GFA, qui ici est interrogé. Et donc finalement, le magazine Thrasher va véhiculer cette image très underground, très punk, au niveau national, d'accord, mais en fait au niveau international. Parce que à ce moment-là, il n'y en a vraiment qu'un seul magazine, avec Transworld et aussi Skateboarding. Puis dans une autre optique, ce magazine-là, Thrasher, véhicule vraiment cette image punk. Et dans les milieux déjà skaters en fait. Et on a aussi les VHS qui se développent, qui explosent autour des années 80, et la VHS de Powell Peralta, Bendis, qui en 89, qui va avoir comme bande-son Fugazi, Social Tendencies, Black Fad, JFA, Circle Jerks. En fait, toute la bande-son, elle est uniquement core, punk, voire metal. Et d'ailleurs, la difficulté à cette époque d'avoir les VHS en France notamment, ça rajoute aussi ce côté marginalité, d'avoir du mal à se procurer les VHS à ce moment-là, hein, c'est un côté corps. On peut citer aussi même à Bordeaux, hein, pour montrer des exemples plus précis, hein. Le skater phare des années 80 à Bordeaux, qui s'appelle Jean-Marc Léandrel, surnommé Jim ou surnommé Bad Red, parce qu'il a une balafre ici, et que en fait il est très punk, c'est un personnage particulièrement punk qui va influencer durablement la scène locale punk, la scène locale skateboard, pardon, à Bordeaux à ce moment-là, et encore aujourd'hui il a une forme d'influence alors qu'il n'est plus sur Bordeaux. Et de l'autre côté, si on a donc à l'intérieur des milieux skaters, vraiment, ils sont très tournés vers le punk. On a aussi, à l'inverse, dans les groupes punk, beaucoup de skaters. Finalement, les deux sont vraiment entremêlés. Hein. Je vous présente ici très rapidement donc Black Flag, hein, qu'on ne présente plus, mais dans un des premiers singles, je cite « I was a surfer, I had a skateboard ». Et Henry Rollins, justement, le chanteur, fait aussi plusieurs pubs pour Independent Trucks en 82. C'est vraiment le groupe référence dans toutes les compétitions. Et ils vont faire même donc des planches, comme ici, je vous présente. Circle Jerks aussi, qui sont une partie des références. D'ailleurs, le clip de Wild Isn't Street, qui date de 82, qui a été remasterisé cette année. Et on reprend les vieux skaters des années 80. On les remet en scène avec un graphisme un peu des années 80. C'est cette année aussi. Et GFA, qui a plus de 7 albums avec sur leur cover des skates aussi. Et je vous ai mis aussi un pins aussi là des Big Boys avec un skateboard qui forme le A de Anarchy. Donc tout ça pour montrer que vraiment les deux mondes sont vraiment entremêlés durant ces années-là. Donc le skateboard, c'est une pratique qui est non conformiste, d'accord, mais que les médias et l'industrie spécialisée ont orienté vers une culture underground afin de la faire perdurer en profitant de l'attrait pour la musique punk rock durant les années 80. Et c'est bien l'industrie hein, qui identifia comme authentique, et ça c'est le terme sur lequel j'insiste un peu, affirmer comme authentique certaines valeurs non conformistes et libertaires aux représentations du skate. C'est bien cette industrie-là qui va inciter là-dessus. La dernière partie, il me semble qu'il y a un idéal type en fait, qui est mis en valeur par les médias et par l'industrie, comme je viens de le présenter, pour redynamiser le skateboard, mais qui va connaître une diffusion à l'échelle globale qui va amener à sa mainstreamisation, si vous me permettez, au cours des années 1990. Il y a une vraie mutation économique et culturelle que va connaître le skateboard autour des années 90, qui va se renforcer depuis le début des années 2000, en fait. Et il y a une forme de paradoxe entre une culture non conformiste et un secteur industriel capitaliste mondialisé. Première mutation très importante durant les années 90, c'est d'abord la fin de la verte, la fin de la rampe, en fait, de la verte pour la verticale, qui était vraiment omniprésente, hégémonique durant les années 80, qui va petit à petit disparaître pour laisser place au street, avec donc plus de pratique, plus de liberté vers la pratique. Mais surtout, la principale mutation, c'est vraiment la création des X Games par ESPN en 1994, qui va amener un développement massif de l'industrie, d'abord aux États-Unis par la chaîne télévisée, mais ensuite aussi au niveau mondial par les chaînes câblées. Et donc, il va toucher un nouveau public qui n'était pas du tout sensible à ça avant. Hein. Trasher Magazine, très peu de personnes le lisent, à part les skateurs. Alors qu'ici, on va voir à la télévision, sur ESPN, une chaîne états-unienne très regardée, les X-Games, donc pas que le skate, mais notamment le skate, avec une image qui va être codifiée autour de le style vestimentaire, que ce soit les compétiteurs. Et j'insiste aussi ici sur Tony Hawk Pro Skater en 99, qui va toucher aussi un nouveau public, un public jeune, encore plus jeune, et qui va le faire jouer différemment, donc lui amener un attrait différent. Et tout ça va amener la diffusion d'une image qui est vraiment très codifiée, avec un style vestimentaire, une musique punk rock, dans la bande-son ou dans les compétitions. On a finalement l'identification d'un idéal type qui, lui, est contrôlé par l'industrie. Parce que les marques, que ce soit vêtements, planches, chaussures, etc., elles vont proposer des produits qui sont conformes à ce qu'on voit à la télévision et à ce qu'on voit dans le jeu vidéo. Donc ça entretient, ça va renforcer cet idéal type. C'est ainsi que le punk est mondialement assimilé à la culture du skate grâce aux médias de masse et non plus aux médias spécialisés qui vont véhiculer l'image d'un idéal type du skater à des fins commerciales. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on a le développement et le succès de ce qu'on appelle le punk skate avec les groupes comme Blink 182, Offspring, Sum 41, NOFX. Et ces groupes-là vont se retrouver très souvent dans le Vans Tour, le Vans Warped Tour, qui se développe. Il y a un festival itinérant à partir de 1996, dans lequel on va avoir à la fois des démos skate, des concerts punk, d'abord aux États-Unis, puis en Australie, un petit peu au Japon et en Europe. Mais en fait, ce schéma-là, on le retrouve aussi en France à plus petite échelle. Hein. Pouline ou Dishishus ou Vans aussi vont organiser des concerts par-ci par-là. Et toujours vont sponsoriser les groupes en leur demandant de porter les marques sur scène ou dans leurs clips. Ils vont sponsoriser vraiment, il y a un vrai sponsoring des groupes de punk skate à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans les clips, on retrouve bien des marqueurs identifiables avec la jeunesse, la rue, des lieux qui sont marginaux, qui sont interdits, et des skateboards avec parfois les skaters qui vont autour des musiciens. Donc cet essor industriel qui est dû aux médias de masse, ça amène un développement qui est massif, qui va petit à petit rapprocher le skate des sports traditionnels. Et je rejoins un petit peu ici ce que tu disais sur la sportivisation, c'est un petit peu ça, hein. Avec des compétitions en international, des cours, des clubs, et l'intégration aux Jeux Olympiques, bien entendu, depuis Tokyo. Donc le skate devient grand public, mais il conserve quand même une image culturelle non conformiste. En fait, bien que mainstream, le skate représente encore une contre-culture, tout au moins la volonté d'être non conforme. Cependant, on a quand même une rupture qui est importante avec la scène punk, surtout depuis les années 2000, qui petit à petit, le skate va se rapprocher en fait du hip-hop aussi. Donc la période des années 90 et des années 2000 correspond en fait à un développement massif de la pratique, qui véhicule un idéal type autour d'une musique punk festive, mais finalement cet essor va amener une mainstreamisation qui va petit à petit perdre l'identité rapprochée avec le punk. Alors je conclus. Le skate et le punk sont bien liés donc par leur histoire et par leur recherche de non-conformité. Cependant, leur représentation les assimile aussi automatiquement. C'est peut-être davantage en raison de la diffusion d'un idéal type du skater au cours de son essor industriel. Et c'est justement ce développement marchand à l'échelle planétaire qui en fait une pratique mainstream. Pour autant, la culture du skateboard reste paradoxalement attachée à une sorte de non-conformité grâce au marketing et à la communication maîtrisée par l'industrie spécialisée et par les réseaux de skaters influents. Le punk a fait l'objet par moment d'une forme de récupération commerciale, mais dans une moindre mesure. Et donc, c'est cette différence qui nous semble intéressante encore ici à discuter. Hein, et serait-ce en raison d'un discours punk nihiliste incompatible avec un développement massif? Ou est-ce que la pratique du skateboard tournée vers la recherche de liberté par les sensations de roule serait-elle davantage en lien avec l'évolution post-moderne, voire transmoderne, de la société, expliquant sa mainstreamisation? Et enfin, en fait, on peut aussi se poser la question si les skateurs sont d'abord des individus qui questionnent la conformité par leur esprit créatif, qui les amène à innover, est-ce qu'ils sont d'abord créatifs avant d'être rebelles, à l'inverse des punks peut-être.
Bien. Merci Baptiste. Deux ou trois questions maximum.
Est-ce qu'on a déjà été moderne?
Moi, c'est une question à propos en termes de distinction importante avec le punk. Ce serait le fait que le skate punk, c'est une musique beaucoup plus facile d'accès que le punk hardcore, même si bien sûr on parle de Black Flag, Circle Jerk, qui sont des groupes majeurs du hardcore, assez vénères, assez violents. Dans les années 90, ce qui représente le skate punk, c'est une musique plus proche du pop punk, bah, comme tout l'année Offspring, tout ça. On perd, j'ai pas envie de dire le côté politique, parce que tout est politique, mais c'est plus aseptisé, vu que je pense par exemple le groupe Gangrene, qui était un groupe de hardcore de Boston. Qui, à partir de leur troisième album, a signé dans un gros label et du coup a abandonné son côté hardcore pour faire du skate punk, par exemple. Ce genre de choses, par exemple. Est-ce que tu penses que le fait que cette musique est plus facile d'accès a permis une plus facile commercialisation et une plus grande distance avec le punk dans les années 90-2000?
Alors, effectivement, moi, je n'avais pas tellement de temps de développer davantage sur le skate punk, de m'attarder dessus. Et je ne suis pas spécialiste de ça, mais de ce que j'en comprends, de ce que j'ai pu en lire, en tout cas, je fais une comparaison vraiment à ce qui se passe à ce moment-là dans l'industrie du skate. C'est pour ça que j'en parle à ce moment-là. C'est que pour moi, c'est lié, c'est en concomitant avec, d'une part, le skate qui va se développer en tant que sport de masse, et en même temps, un style musical qui va y être associé, qui va bénéficier un peu l'un de l'autre, par l'industrie, par les fonds en fait, qui arrivent, hein, tout simplement. Et donc, je pense que certains groupes en profitent, en fait, que cette vague, cet essor industriel du skate, il va entraîner avec lui un style de musique dont certains groupes de punk, ce qui n'englobe pas forcément, bien sûr, le punk. Et j'ai bien conscience que le skate punk n'est qu'une partie du punk et est bien critiqué souvent comme étant une partie commercialisée du punk. Donc je pense que justement, il y a vraiment un lien entre les deux par cet essor industriel lié au skate. Alors on considère qu'il existait quand même du skate punk avant cette période-là. Je suis pas spécialiste du skate punk, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a permis de doper vraiment à ce moment-là à la fois le skate et donc le punk aussi, ou en tout cas une partie plus grand public, parce qu'on s'adresse à la télé ou aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, au petit passage, excuse-moi. Tony Hawk parlait des bandes-sons, du choix des bandes-sons pour les jeux vidéo. Lui-même était parfois étonné de se rendre compte qu'on pouvait faire passer certains, que c'était validé en gros par l'industrie, de faire passer certaines chansons qui étaient particulièrement hardcore. Donc c'est-à-dire que même lui se rendait compte un peu de ça.
Pardon. Merci en fait, merci pour la présentation. T'as parlé rapidement à la toute fin du rap, et en fait moi c'est une question, je suis pas du tout spécialiste de l'histoire du skate, mais comment j'avais perçu, moi, c'est qu'évidemment, dans les années 80, l'association avec les mouvements, les cultures rock, comme tu appelles, le punk, le hardcore et tout, semble évidente. Dans les années 90, quand émerge le Vans Warped Tour, quand il y a Tony Hawk, il y a tous ces groupes-là, et le skate punk qui vient avec, et c'est une introduction brutale dans la culture mainstream du skate, et ben, moi j'avais l'impression, parce que c'est mes années où je faisais du skate, de fin des années 90 et tout, où il y a eu un virage, en fait, dans l'underground du skate vers le hip-hop qui a été, comme tu l'as abordé assez rapidement, mais en fait, comment je le perçois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a l'underground du skate qui s'agglutine toujours aux cultures underground urbaines, et quand ces cultures-là intègrent le mainstream, mais en fait, il y a toujours une partie du skate qui se, qui se détachent en fait pour se rallier à ce qui est l'underground actuel, tu vois. Et chez nous à Montréal récemment, il y a un truc, je sais pas si tu vois ce que c'est, Dime, la compagnie de fringues.
Ouais.
Et ben ils ont fait un concert et tout, et il y avait un groupe de rock et deux groupes de hardcore, et pour au final à la fin de la soirée, c'était des DJ électro et tout, et les gens ils regardaient l'affiche, ils se disaient mais putain, c'est quoi en fait? Est-ce que je percevais en fait, c'est un retour en fait, le rap, c'est devenu tellement gros que maintenant il y a un retour vers le punk, le hardcore et ces cultures-là en fait. Et tu vois, c'est ça en fait, l'idée qui me semble intéressante dans ce que tu disais, c'est la notion d'underground en fait. C'est là où le skate se colle à ces mouvements-là qui sont urbains et tout. Et au-delà du punk, en fait, le punk l'a été à différents moments, mais bon, ça s'inscrit dans une histoire qui contient aussi le rap et bon, éventuellement d'autres musiques. On verra ce que l'avenir réserve. Mais je voulais savoir ce que tu en pensais en fait de ce retour-là, surtout vers actuellement en fait, où il y a un retour de l'association entre le skate et le punk hardcore et tout, ce qui rappelle les années 80.
Je trouve qu'il y a deux choses. D'abord, tu disais que justement, il y a un peu le côté underground et le côté grand public. Ça, c'est vrai. Hein, c'est ce que j'essaie de présenter un petit peu aussi. C'est qu'il y a un paradoxe dans le skate, ou plutôt une dualité. C'est-à-dire que le skate réussit à être non conformiste et en même temps grand public. C'est les deux à la fois. Parce qu'il y a le double jeu. D'abord, parce que, alors je pense que c'est parce que l'identité, elle est par essence, enfin, la pratique, elle est par essence un peu non conforme, même si elle le devient de plus en plus. Et aussi parce que il y a des enjeux très importants en termes d'image que les marques veulent entretenir. Et ensuite, sur le revirement avec le hip-hop, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'au moment effectivement, où il y a le skatepunk qui va se développer pour le côté mainstream, on va avoir donc de l'autre côté, au contraire, un côté underground qui va se recoller plutôt à ce qu'est la culture underground de l'époque. Et en fait, la culture aussi plus jeune. Il y a ça aussi, c'est que les années 80-70, la jeunesse va écouter davantage du punk. Les années 90, la jeunesse va écouter davantage du hip-hop, il y a ça aussi. Et aujourd'hui, on est sur un mélange un petit peu des genres, avec un retour sur le punk, mais bizarrement un retour sur les bases du punk. Il y a un peu ça aussi, mais parce que je pense que c'est un côté générationnel aussi, c'est que les skaters des années 80, il y en a beaucoup qui skatent encore hein, d'ailleurs, qui se présentaient comme étant les... des vrais punks, vrais skateboarders, ben là on est sur une deuxième génération, une troisième génération plutôt, qui revient un peu à cette identité-là, parce que leur père, éventuellement, leur ont inculqué cette distance-là. Il y a ça aussi, il y a beaucoup, il y a même, il n'y a pas très longtemps, une expo à Bordeaux sur père et skater, avec ce sentiment de filiation. Il y a un sentiment de filiation entre les générations de skaters qui est vraiment très présent. Alors moi, je travaille surtout sur Bordeaux, donc c'est pour ça que je connais ça. À Bordeaux, c'est vraiment très importante, parce que la scène bordelaise est présente depuis les années 80 et ne s'est jamais vraiment arrêtée, contrairement à d'autres villes. Et aussi cette filiation de père en fils. Et tout à l'heure, pour le roller derby, on disait que la mère voulait être moins punk et voulait du coup que la pratique soit un peu moins punk. Je pense que c'est vrai aussi pour le skate. C'est que si aujourd'hui, c'est aussi accepté, c'est aussi mainstream, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ont skaté dans les années 80, voire dans les années 90, qui accèdent à des rôles dans les municipalités, notamment, donc qui vont permettre d'intégrer dans les politiques publiques, et aussi parce qu'il y a une forme d'évolution générationnelle, de maturité en fait aussi chez les pratiquants, qui vont sur les spots calmer un peu les petits jeunes, etc.
Et je dirais même, je complète même par rapport à ça, c'est un fait social assez inédit que moi-même j'ai observé dans mes travaux. Du coup, ce rapport-là intergénérationnel, qui est hyper intéressant. Il y a des fois, on ne sait même pas si c'est les enfants qui éduquent pas les parents. Vice versa, c'est comment dire, ce système très oppositionnel à un ordre parental qu'on pouvait avoir et qui était dans les discours jusqu'à les années peut-être 90, etc. On le retrouve vachement moins dans les discours des gamins aujourd'hui, ou peut-être encore un peu via l'école, etc. Mais moi, ce que je me suis aperçu, en tout cas dans le punk très contemporain, c'est des formes de négociation avec le cadre, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu montres aussi.
Ouais, et puis justement, dans le, il y a beaucoup de, beaucoup, il y en a en tout cas qui vont se mettre au skate parce que leurs enfants se sont mis au skate et que eux, ils vont prendre une planche plus adaptée pour eux, faire du cruising ou du longboard, simplement se déplacer avec. Donc il y a aussi ce côté-là hein, de retour à l'intérêt du skate par la génération, par une forme de maturité. Et donc il n'y en a plus cet esprit rebelle du
capital punk. Contre-culturel dès l'instance ouais. Primo familiale. Je vous remercie beaucoup. Bravo. Merci beaucoup Baptiste.